c'est ludique, c'est l'heure de jouer.
Alors, c'est un phénomène météorologique. Hein. Quand les rayons du soleil rencontrent les gouttes de pluie, nous avons le droit à un arc-en-ciel. Un arc-en-ciel est composé de 7 couleurs. Je vous parle donc de Rainbow 7, le premier jeu de Ghost Dog Games, un nouvel éditeur. D'ailleurs, Antoine Davraud, hein, le fondateur de Ghost Dog et co-auteur avec Alexandre Emrit, sera avec moi dans quelques minutes. Alors, Rainbow 7, c'est un jeu de cartes, un jeu de défausse. Le but est d'avoir moins de 7 points en main pour que les autres joueurs piochent des jetons pluie. La partie s'arrête hein, quand l'un des joueurs a 7 jetons pluie. Dans Rainbow 7, on retrouve des cartes numérotées de 1 à 7, sachant que les cartes 7 ont des pouvoirs, on va y revenir tout à l'heure. En début de partie, chaque joueur récupère un 7 et 6 autres cartes, mais alors comment on joue ? Eh bien vous allez voir, vous allez devoir vous débarrasser de vos cartes. Au milieu de la table, vous avez la pioche, on va retourner 3 cartes, ça va représenter 3 défausses. À votre tour, donc vous n'avez qu'une seule action possible parmi 3, défausser et piocher. Annoncer un rainbow ou faire un perfect. Alors la première est de défausser une ou plusieurs cartes dans l'une des 3 défausses et d'en piocher une, hein, soit dans l'une des défausses qui est visible, soit de prendre la première carte de la pioche. Vous pouvez défausser une carte de n'importe quelle valeur, défausser 3 cartes ou plus de même valeur, par exemple un 6 jaune, un 6 bleu et un 6 vert, ou une suite de 3 cartes ou plus de la même couleur, exemple 4, 5, 6 orange. La carte 7, elle, est particulière, mais pour appliquer ses effets, elle doit être jouée dans une combinaison. Si elle est jouée toute seule, eh bien, on n'appliquera pas son pouvoir. Parmi les pouvoirs, vous pouvez vous défausser d'un jeton pluie. Un autre joueur, celui que vous choisissez, en récupère un, mais pensez bien qu'il se souviendra du petit cadeau. Vous pouvez faire piocher les autres joueurs et autres effets possibles. Vous n'êtes pas obligé, vous, de piocher. Il existe aussi des cartes joker pour remplacer un n'importe quelle couleur ou valeur qui valent 0 points dans votre main en fin de partie. Deuxième action possible, donc, c'est faire un rainbow. Alors, à partir du moment où vous avez le total de vos cartes qui fait moins de 7, vous pouvez dire rainbow. Vous avez 4 points en main, et bien vous dites rainbow 4. Si aucun autre joueur peut vous contrer avec un rainbow inférieur, et bien tous les autres se prennent une averse et récupèrent 2 jetons de pluie. En revanche, bah, si un autre joueur avait un rainbow inférieur au vôtre, et bien la foudre orageuse tombe, vous frappe, et vous prenez 3 jetons de pluie. Il faut donc bien réfléchir avant d'annoncer un rainbow. Troisième action et dernière possible, à votre tour, vous faites un perfect. C'est-à-dire que ben, vous arrivez à poser toutes vos cartes lors d'une dernière combinaison. Dans ce cas, vous gagnez la manche et les autres joueurs prennent chacun un jeton de pluie. Dès qu'un joueur atteint les 7 jetons de pluie, eh bien, la partie s'arrête et celui avec le moins de points remporte le jeu. Ce Rainbow 7 est une belle surprise et sort du lot, c'est rapide, c'est malin. La tension se ressent autour de la table quand il ne reste plus qu'une carte. Allez, d'ici quelques instants, on continue de parler de Rainbow 7 avec Antoine Davroux. Pour la musique, c'est Juliette Armanet avec Le Dernier Jour du Disco.
Le Dernier Jour du Disco.
C'est ludique, l'invité de la semaine.
Et mon invité cette semaine, c'est Antoine Davroux, co-auteur et éditeur du jeu Rainbow 7. Bonjour Antoine.
Eh bien, bonjour, bonjour à tous.
Alors avant de parler de Ghost Dog, hein, ta nouvelle maison d'édition, tu es dans le milieu du jeu depuis un petit moment déjà.
Eh bien oui, depuis 2013, j'ai fondé Superlude en 2013 et mon premier jeu est sorti en 2014. C'était un jeu qui s'appelait Tralala, que tout le monde a oublié mais, mais qui a bien existé.
Et tu jouais avant 2013, t'étais déjà joueur ?
Ah oui, oui, bah, joueur depuis que je suis adolescent, donc joueur principalement de jeux de société, de jeux de rôle,
ouais.
Depuis que j'ai 12 ans en fait, je pense, et puis de jeux de figurines, avec Warhammer et puis d'autres choses, et puis Magic évidemment, pendant mes années fac, et du coup j'ai découvert Magic et les jeux de société à peu près en même temps.
D'accord.
Et puis depuis, je n'ai pas arrêté.
Alors justement, Superlude, est-ce que c'est fini Superlude ?
Alors pas du tout, parce que Superlude c'est encore ma société.
D'accord.
Ghost Dog en fait c'est une marque commerciale au sein de Superlude.
D'accord.
Qui a pour objectif de publier les jeux grand public, puisque la marque Superlude se concentre sur des jeux institutionnels pour des collectivités locales. Récemment on a fait sous la marque Superlude un jeu pour un parc naturel régional en région parisienne, parc du Gâtinais français.
D'accord.
Et donc la marque Superlude a vocation à faire d'autres jeux sur ce type de clients.
Il y a eu aussi une grosse partie, je crois, à Print and Play hein, pendant le confinement.
Et complètement, c'était une expérience assez extraordinaire. Lorsque le confinement est arrivé, j'ai pris la décision de, de ne pas faire de jeu en boîte pour ne pas être confronté à des difficultés inhérentes à cette situation. Et j'avais aussi envie d'expérimenter quelque chose qui permettait de mieux répartir les risques et les revenus dans la production d'un jeu. Et donc du coup, j'ai décidé tout simplement d'imaginer une gamme de jeux en print and play à 3€. Des jeux qui sont conçus et illustrés comme des jeux qui pourraient sortir en boutique, mais avec une répartition des revenus différente, puisque l'auteur touche 1€, l'illustrateur 1€ et l'éditeur 1€.
Comme ça, tout le monde a 1€.
Exactement.
Comment est né du coup Ghost Dog ? Quel est l'ADN de Ghost Dog ? Et puis qu'est-ce que tu recherches aujourd'hui comme jeu ?
Alors, comment Ghost Dog est né ? Eh bien, la volonté justement de faire une rupture, de séparer bien les deux activités B2B et B2C, des abréviations un peu compliquées, mais bon, en gros, de séparer mon activité avec des clients professionnels, donc des collectivités locales par exemple, et mon activité et aussi la communication tournée vers le grand public. Donc voilà, j'étais dans une période de réflexion aussi où les jeux Superlude, malgré des succès véritables, n'ont jamais été des locomotives. Ouais. Et donc j'avais envie un peu de me redonner à moi, au bout de 7 ans, une espèce de fraîcheur, une espèce de nouveauté, comme un peu le début en fait. On est toujours très très motivé, très plein d'énergie quand quelque chose de nouveau commence. Et donc j'ai envie tout simplement de créer une nouvelle marque. Et puis ce mot Ghost Dog, je l'ai en tête depuis des années et des années, puisque je suis un grand fan du film de Jim Jarmusch, Ghost Dog, et ce mot est resté dans ma tête. Et j'ai même dessiné un petit logo il y a très longtemps, avec une espèce de petit chien fantôme.
Ouais.
Et ce logo, je l'ai gardé sur un petit bout de papier griffonné au fond d'un tiroir depuis 10 ans peut-être.
Ouais.
Et je ne savais pas quoi en faire de ce logo. Et puis les deux idées se sont connectées, et je me suis dit ça va devenir la marque et le logo de ma nouvelle marque de jeux de société. Et en termes de qu'est-ce que c'est que Ghost Dog exactement, je pense que c'est une marque où je vais essayer de prendre un petit peu plus de risques sur mes jeux, et en même temps de les concevoir en amont un peu différemment. C'est-à-dire peut-être des jeux qui sont moins des jeux qui ne sont uniquement des coups de cœur de ma part, où je suis un peu dans ma bulle et je me dis « Ah ça, j'adore ce jeu, je vais le faire », mais je vais plutôt réfléchir un peu plus à ce que ce jeu apporte globalement au monde ludique, et comment il peut se positionner dans un contexte de plus en plus concurrentiel. C'est pour ça que j'ai choisi de faire un jeu à 2 joueurs, et que j'ai choisi de faire un jeu neutre, en fait, avec uniquement des couleurs et des numéros, pour m'inscrire dans la grande lignée des jeux tels que Sky Joe, Six qui prend, Uno, voilà. Donc on est dans une réflexion un peu différente.
Alors justement, on va parler de Rainbow 7, un jeu de cartes. Alors, comme tu dis, c'est pas évident de sortir du lot avec les Skijo, les Hilo et autres jeux de cartes. Où on trouve l'idée, là, comme ça ?
Alors, encore une fois, ça c'est dans mon passé de joueur, c'est-à-dire que j'ai beaucoup joué à un jeu de cartes traditionnel israélien qui s'appelle il a plusieurs noms, mais moi je l'appelle le Yaniv, alors je sais pas si c'est vraiment le bon terme. C'est un jeu de cartes de défausse, on joue ça avec un jeu de cartes traditionnel, mais comme tous ces jeux-là, c'est compliqué, il y a plein de cartes, la reine ça vaut tant, le roi ça vaut tant, mais alors on peut pas faire ça, et bon. Donc la mécanique, l'envie de moderniser ce jeu-là était en moi depuis très longtemps, et puis je l'avais jamais réalisé tout simplement. Et puis encore une fois, c'est des vieilles idées qui reviennent avec une volonté actuelle de faire quelque chose de nouveau. J'ai connecté les deux, et à ce moment-là, je me suis dit, je vais créer mon premier jeu, je vais le faire, puisque aucun auteur ne me propose ce type de jeu, je vais le faire. Et donc, j'ai contacté mon ami Alexandre Emery, qui est lui aussi auteur, et je lui ai dit, écoute, moi, je ne suis que éditeur, je ne suis pas auteur, donc aide-moi, help, faisons un jeu ensemble. Et voilà, et comme on s'entend très très bien, on a commencé à travailler là-dessus, et la simplification, l'épure du jeu traditionnel est venu très vite, et on en a fait Rainbow Seven. Alors aujourd'hui, comment se distinguer du reste des jeux de ce secteur ? Tout simplement avec un jeu qui est vraiment addictif, qui est très simple, donc du coup qui va pouvoir toucher tous les publics, qui aussi évoque des jeux que des joueurs ont pu jouer précédemment. On est un peu sur les codes couleurs du Uno par exemple, on est sur le format et le prix de ce type de jeu, et donc ça va évoquer aux gens ce type de jeu, et en même temps on apporte quelque chose de nouveau. C'est un jeu qui est plus joueur que les jeux dont on a parlé précédemment. Il y a des petits twists, il y a plusieurs façons de gagner. Il paraît très simple au préalable, en préambule de la partie, pardon. Et puis plus on joue, plus on s'aperçoit qu'il y a des petites subtilités, des tensions qui font que c'est un jeu destiné à tous les publics, mais aussi aux joueurs.
Ouais, et puis ce qui est aussi rare dans les jeux de cartes avec des chiffres, il y a un travail graphique dans Rainbow Seven.
Alors là, c'était je ne pouvais pas faire un jeu moche. C'est pas possible. Alors, je dis pas que les autres sont moches, hein. Je ne le dis pas. C'est pas que je pense pas, mais je ne le dis pas.
Oh, bah si, t'as le droit de dire que ce qu'ils jouent est pas beau, hein.
Non, je peux pas critiquer le travail des autres, c'est pas bien. Mais, c'est un incontournable dans la gamme Ghost Dog et dans la gamme Superlude aussi. C'est de faire des beaux jeux. C'est-à-dire que là, le travail graphique, le travail esthétique était je ne pouvais pas faire quelque chose de moyen. Et donc du coup, mais en même temps, je voulais faire quelque chose de très simple, de grand public, sans que ça soit péjoratif, de populaire. Voilà. Je voulais vraiment pas faire quelque chose d'élitiste. Et donc du coup, j'ai demandé à Yann Parovel, dont j'avais beaucoup apprécié le travail sur quelques cartes de jeux traditionnels qu'il avait postées comme ça sur Facebook, en disant petit essai graphique sur un jeu de 54 cartes. Et je me suis dit et ça, encore une fois, c'est quelque chose que j'ai vu il y a peut-être 2 ans. Et quand j'ai eu l'idée de créer Rainbow, je me dis Yann Parovel, je le connaissais déjà parce qu'on avait déjà c'est un petit milieu, le milieu du jeu, donc je le connaissais déjà. Et je me suis dit Rainbow Seven, Yann Parovel, faire des jolies cartes avec des numéros, ok, c'est bon. Et donc j'ai contacté Yann. Il s'est mis sur le projet tout de suite et il a fait quelque chose qui est vraiment génial parce que c'est simple, c'est populaire dans le bon sens du terme et en même temps. Ben moi je trouve ça beau quoi, c'est vraiment beau, c'est graphique, c'est esthétique, c'est design, c'est presque un petit peu élitiste, mais non, il faut pas le dire.
Alors il y a un beau succès hein, pour Rainbow Seven, ouais. Je pense qu'à Cannes ça s'est super bien. On s'est vu le jeudi, mais après il y a eu toutes les personnes qui sont arrivées. L'étape comment c'était du coup au niveau du jeu?
Plein tout le temps. Ouais, plein tout le temps, ça n'a pas désempli. Et alors là je rentre du festival d'Épinal. Jeux et compagnie à Épinal, ouais. Qui a un... Alors, on peut parler de Cannes, donc à Cannes, évidemment, ça n'a pas désempli, mais là où vraiment j'ai constaté l'énorme potentiel, alors, j'y croyais, mais on a toujours un petit doute hein, de voir comment le public va l'accueillir, mais à Épinal, qui est un festival qui fait entre 13 000 et 15 000 personnes, donc c'est déjà un beau festival, et qui est très, très familial. Très, très familial. Et là, ça a été énorme. Énorme. En gros... Ça m'est jamais arrivé dans ma vie d'éditeur. Hein.
Ouais.
Une table jouée, un jeu acheté.
Ah oui.
C'est pas compliqué, hein. Le ratio, c'est 1-1. C'est 1-1 le ratio. Et donc, les deux boutiques étaient présentes le samedi, étaient sold out.
D'accord.
Les boss des boutiques sont venus me voir en me disant « Antoine, génial, c'est top, on en vend des pelletés ». Donc du coup, moi, j'y mets « Attends, comment ça, vous en vendez plein ?»« Bah oui, on est sold out, là, c'est top, merci ». Merci, c'est top. Bon, alors quand même, pour qu'une boutique vienne te voir pour te dire ça,
ouais.
T'es un petit peu content quand même, parce que c'est vraiment l'objectif final, c'est que ton jeu se vende. Donc il y avait d'une part le retour du public qui était vraiment, vraiment, vraiment fort, des gens qui me disaient bravo, merci, donc c'est la première fois que ça m'arrive, et les boutiques qui, du coup, au bout de la chaîne, avaient le même ressenti positif. Et donc le dimanche, ils sont repartis chercher dans leur boutique respective du stock, et le dimanche midi, ils étaient de nouveau sold out.
Ah ouais,
et donc voilà. Et donc ça a été vraiment un événement très 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 marquant pour moi, ce festival d'Épinal, parce que le jeu a rencontré son public. Voilà, à Cannes aussi, mais à Cannes c'est plus joueur,
oui.
c'est des gens qui ont déjà joué à beaucoup plus de choses. Là, j'étais avec des gens qui jouaient, au Sky Joe, si ce qui prend, à certains jeux un peu experts, mais ou un peu plus de connaisseurs, mais vraiment très familial, beaucoup d'enfants, des grands-parents, des parents. Et tous ces gens-là ont adoré. Et donc là, moi, je me suis dit, c'est gagné.
Voilà. Ah en tout cas, espérons...
Alors, c'est gagné. C'est pas encore gagné. Mais
espérons.
C'est pas encore gagné.
Ouais. Espérons pour toi qu'il y ait le même succès que Sky Joe, Hilo ou tous les autres jeux
alors,
hein, de
je
cartes.
Je me souhaite ça. Clairement, je me souhaite ça. Et puis, je souhaite ça aussi à Alexandre, bien sûr, mon co-auteur. Parce que franchement, on a pris tellement de plaisir à créer ce jeu tous les deux que si en plus il marche et qu'il donne du plaisir aux gens, c'est
cool.
Ouais.
Alors on va parler maintenant d'un autre jeu que je présenterai prochainement, donc c'est Tribunal 1920. Alors là aussi c'est une petite pépite là à deux joueurs.
Clairement.
On est sur les bases du Morpion. Hein.
C'est ça, c'est un jeu traditionnel, donc le Morpion que tout le monde connaît. Donc du coup en salon je dis vous savez jouer au Morpion? Oui, bon vous savez jouer à Tribunal.
C'est
bon, alors, c'est pas vraiment vrai parce que justement tout l'intérêt de ce jeu là c'est de faire du neuf avec du vieux. Et donc, du coup, les gens ont une base connue, et puis on va les surprendre en mettant du bluff, en mettant des petits effets, en mettant de la stratégie, puisqu'il y a plusieurs façons de gagner. Hein. Moi, récemment, quand je joue en ce moment, je joue sur des stratégies de blocage. C'est-à-dire que je ne cherche pas à faire des lignes de morpion, je cherche à bloquer. Mais dans ce jeu-là, quand on cherche à bloquer et qu'on finit une manche en sans que personne n'ait fait de ligne. Si au préalable, on a activé quelque chose de particulier, ben on gagne la manche.
Ouais.
Donc, il y a vraiment beaucoup de petites subtilités. Et c'est un jeu qui, en effet, rencontre un énorme succès. À l'origine de ce jeu-là, c'est un jeu en PNP, déjà. C'est un jeu en print and play qui a eu un beau succès sur ma plateforme print and play et qui a été plébiscité par les joueurs et par les reviewers. Et c'est notamment Rachel du Passe-Temps et Marc-Antoine de Etugame qui tout de suite m'ont alerté en me disant « Ce jeu est génial, on veut le voir en boîte ». Donc, quand ouais. Rachel du Passe-Temps te dit « Ce jeu-là, je le veux en boîte dans mon magasin »,
oui.
Tu te dis « Je vais peut-être le faire
bah, ». Peut-être.
Ouais. Peut-être que je vais le faire. Et donc, comme du coup, j'avais la chance de connaître un peu Weberson Santiago, en amont, évidemment, c'est après que Rachel a trouvé le jeu génial, mais au tout début, c'est Grégory Grag avec qui... qui est rouennais en plus, donc du coup moi je suis rouennais aussi, donc voilà, on se connaissait un petit peu. Et j'ai proposé à Weberson de faire ce petit jeu avec peu d'illustrations, entre guillemets, là je fais le petit signe entre guillemets, et ça a donné ça, Rachel l'a trouvé super, Marc-Antoine a trouvé super, et quand le confinement s'est terminé et que j'ai décidé de nouveau de refaire des jeux en boîte, que l'idée de Ghost Dog est arrivée à maturation, et bien évidemment pour moi c'était une évidence ouais. que ça devait être Tribunal, le premier jeu. Et oui, énorme succès aussi, en tout cas, en vente, hein, ça c'est vrai que j'ai jamais vu un aussi beau démarrage, en tout cas pour moi, pour ma petite maison d'édition et entre guillemets ma petite expérience, là les chiffres de vente sont, enfin j'ai jamais vu ça, même Maître Renard qui a eu un As d'Or n'a pas démarré aussi fort, ouais. ça c'est sûr. Et puis en effet, là je rigolais hier à la maison parce que je dis on me demandait de faire des choses et j'avais pas le temps parce qu'en fait je passe mon temps à reposter les avis positifs sur le jeu, les reviewers qui sont enthousiastes, qui mettent des cœurs, qui disent une pépite, une perle, et c'est la première fois qu'il y a une telle hype, euphorie autour d'un jeu, et donc forcément ça me donne une énergie folle quoi.
Et c'est plutôt pas mal pour deux premiers jeux en plus ça.
Eh ben oui, le premier jeu. Alors, c'est faussement de premier jeu, parce que
oui.
Voilà, je suis un vieil éditeur. Et c'est rigolo parce que les gens au salon, qui ne me connaissent pas forcément, me disent « Ah, mais alors vous venez de débuter, vous lancez votre maison d'édition, voilà. » Alors je leur dis « Non, je vous explique. » Et puis voilà, je raconte un peu la story, et puis voilà. Donc je suis un jeune, vieux éditeur.
Alors je suppose, alors tu comptes sortir combien de jeux environ par an? Je suppose qu'à Cannes, tu as vu des auteurs qui t'ont proposé des jeux.
Ouais. Oui. Alors j'ai vu quelques jeux intéressants, mais j'ai déjà dans mon line-up pour 2022, j'ai déjà un autre jeu qui est en cours là de finition.
Ouais.
Qui s'appelle Myriade. C'est un jeu de Benoît Turpin et de Romaric Gallonier.
Mm-hmm.
C'est un casse-tête solo plutôt destiné aux plus jeunes avec un livret d'aventure. Voilà. On est un peu comme dans Parodin.
D'accord.
Chez Old Chap, un jeu un peu de ce type-là. Et c'est un jeu qui joue avec des tuiles triangulaires, avec des icônes aux trois coins des tuiles, donc c'est recto-verso. Et le principe de base, ça va être de reconstituer des îles au centre d'un assemblage de triangles pour que les deux enfants de l'histoire puissent aller au bout de leur quête après une succession d'aventures. Voilà. Et le jeu sera illustré par Gorobei, qui a illustré Incalam en print and play, toujours chez Superlude. Et voilà, et puis qui a édité aussi plein d'autres choses, des bandes dessinées. Ouais.
Donc finalement, tu t'interdis rien du jeu de cartes, du jeu de joueurs, du jeu enfant?
Bah oui, parce que j'ai pas une ligne. J'aurais aimé avoir une ligne. J'admire par exemple ce que fait Olibrius en se disant nous, on va faire que des jeux improbables, on va faire que des ovnis. Que des ovnis, ou quelqu'un qui dit nous on va faire que des petits jeux comme ça, explication c'est que une minute. Bon. J'arrive pas à avoir de ligne éditoriale, je vais plutôt en effet aller sur des jeux qui me semblent appropriés au bon moment, et évidemment des bons jeux, des jeux qui me plaisent, et qui plaisent à beaucoup de gens autour de moi, et notamment des professionnels, des éditeurs, des influenceurs. Voilà, je veux vraiment que le jeu en amont soit très apprécié. Et c'est ce qui va se passer en 2023, puisqu'en 2023, je lance une gamme de jeux. Au départ, ça devait être un tout petit jeu, un petit jeu que j'ai présenté comme ça à mon distributeur, Asmodée Novalis. Je présente comme ça plein de petits jeux. Et puis en disant, tiens, je vais faire une gamme sur tous ces petits jeux. Je vais faire une gamme, tout mettre ça en display, un peu comme les petits jeux de Button Shy, les petits wallet games de Button Shy.
Ouais.
Et voilà, des petits jeux pas chers. Et puis donc, Asmodée me dit, très bien, ok, très bien. Et puis je leur présente un de ces petits jeux Et là, coup de cœur, il me dit, Antoine, on s'arrête là. Ça, c'est ta priorité pour 2023. Ce jeu-là, ce petit machin-là. Et donc, ils m'ont dit, ce jeu-là, il faut que tu le développes, il faut que tu fasses des starter packs, des extensions, des trucs comme ça. Et donc, ça va être mon gros projet pour 2023. C'est un projet qui, pour l'instant, s'appelle Escarmouche. Je pense que c'est le nom qui va être conservé. En gros, c'est un vrai jeu de figurines, sans figurines, à moins de 10 euros.
Ah ouais.
Voilà, en gros, c'est ça. Le
D'accord.
pitch, c'est ça. Voilà.
Et donc ça sera pour 2023. Merci beaucoup.
J'espère Cannes. Ouais. Merci.
Eh ben, on découvrira ça à Cannes. Merci beaucoup, Antoine, d'avoir
Merci
été
beaucoup.
sur Millennium dans C'est Ludique.
Ça m'a fait très plaisir.
Merci.
Au revoir,
à bientôt. Salut, Antoine.
À bientôt. Salut.